France Culture.
Bon, il était 2h du matin, je dormais du sommeil du juste, j'entends les alarmes. Et je me dis, tiens, il y a quelque chose de bizarre au château. Je ne sais pas pourquoi, je me suis décidé à me lever tout de suite, enfiler un pantalon, prendre un pistolet, je ne sais pas très bien si, comment on fait pour l'armée, mais enfin, et je galope vers le château. Le temps de me réveiller, de me frotter les yeux, de mettre un pantalon, un tricot, prendre le pistolet, il a dû environ se passer 6 à 7 minutes entre le moment où je suis parti de mon appartement dans les communs pour aller jusqu'au château. Et si je ne me trompe pas, M. Malatret, qui est avec moi ici et qui est le chef de l'entretien du domaine, a dû arriver en même temps que moi à la grille.
C'est exact. Oui, c'est ça, exact.
Maintenant, il y a une parenthèse qu'il faut peut-être que je donne à un moment. C'est qu'à cette époque-là, en 1998, il n'y avait d'alarme que dans le château. On avait eu beaucoup de fausses alarmes. L'hirondelle qui est restée enfermée dans la maison, qui se met à voler dans les rayons, le vol de bête à bon Dieu qui se déplace, ou l'araignée qui se met sur le détecteur volumétrique. Il y a souvent des petits incidents comme ça, ce qui fait que nous sommes alertés, puis en même temps on se dit, mon Dieu, encore une fois une alouette ou quelque chose comme ça. Là, je ne sais pas pourquoi, nous y avons été tous les deux, d'instinct. Je crois que nous étions un petit peu tendus, parce que depuis un mois, séjournaient à 400 mètres d'ici 500 caravanes de gens qu'on n'a pas le droit d'appeler manouches, mais qui s'appellent les gens du voyage. Nous savons maintenant que ce sont des gens du voyage qui ont volé. Moi, on était peut-être un peu tendus, c'est peut-être ce qui nous a décidé.
Le gang des châteaux. Mathilde Deschamps, Yvon Croisier. Première partie.
Alors on arrive tous les deux un peu essoufflés devant les grilles. Nous avions tous les deux la clé. Il faut actionner 3 serrures successives pour arriver au lieu des alarmes. Et j'ai dit à Malatret, passez devant, je ne connais pas le code pour éteindre les alarmes. Les alarmes sonnaient. Waouh, waouh, waouh. On se disait, c'est pas possible, qu'est-ce qui peut bien se passer? Alors c'est lui qui est passé le premier, est arrivé au rez-de-chaussée et a éteint l'alarme. On est entré dans le château et il faut être sur place maintenant.
Le château de Vaux-le-Vicomte, construit à la fin du XVIIe siècle, en Seine-et-Marne, par le ministre des Finances de Louis XIV, Nicolas Fouquet. Architecture de Levaux, peinture de Lebrun, jardin de Lenôtre, un château qui a fait pâlir de jalousie le grand Louis XIV. Ajoutez à cette demeure prestigieuse une bande de cambrioleurs sans scrupules, un policier tenace, un receleur fourbe, tous les ingrédients d'un récit romanesque qui pourrait s'appeler « Le secret du bronze de Louis XIV ». Tout a commencé la funeste nuit du 23 juin 1998.
Nous sommes dans l'antichambre d'Hercule. J'ai dû aller jusqu'à l'interrupteur dont je connais l'emplacement par cœur, mais dans le noir. J'ai allumé et tout de suite j'ai vu les 3 grands bronzes ont disparu. Et je me suis beaucoup plus occupé de penser aux voleurs. Alors je suis rentré dans le grand salon où j'ai retrouvé M. Malatret qui lui était passé par d'autres enfilades. Je me suis planté ici.
Donc on est ici sous la coupole.
Dans le grand salon. Ça résonne assez pour qu'on sache que ce soit qu'il y a 18 mètres sous le plafond. Et je me suis dit, le voleur est soit à gauche, soit à droite. Il ne doit pas être en face puisque Malatret vient d'arriver par là. Et c'est à ce moment-là que j'ai senti un courant d'air dans mon dos. Je me suis retourné et la porte sur les jardins sur le perron sud, sur l'autre façade de la maison, était grande ouverte. Et je me suis dit, ils sont rentrés ou sortis par là. Mais je n'avais pas encore la présence d'esprit de me dire, ils sont sortis ou ils sont encore là. J'avais plutôt à penser, ça venait de s'arrêter de sonner depuis quelques instants. Eh bien, c'était la technique nouvelle. On cambriole même quand ça sonne. Ce n'est pas dissuasif. Bon. À ce moment-là, nous sommes descendus, Malatret et moi, vers le pont-levis, qui était levé et qui me donnait une sécurité. Je croyais que ça me donnait une sécurité formidable, une maison entourée d'eau. C'est pour ça qu'on éclairait la façade nord où il y a un pont normal. Et la pont, le côté pont-levis, on ne se donnait jamais le mal de surveiller beaucoup trop, parce qu'on disait, comment est-ce qu'ils franchissent l'eau ? Eh bien, ils avaient fait un pont. Ils avaient volé dans le domaine une échelle en fer qui trempait dans un vieux bassin très creux. Dans une de mes fermes, une grande poutre de bois qu'ils avaient installée sur l'échelle en fer. Ils ont jeté l'échelle en fer en travers de la partie la plus étroite des douves, celle du pont-levis. Ils ont construit comme ça un petit toboggan. Alors, il y avait 5 ou 6 gars ici qui transportaient le bronze qui fait presque 100 kilos, le posaient sur le toboggan, le tenaient avec des fils électriques qu'ils avaient eux, ils le faisaient glisser, puis il y avait une équipe en bas avec une voiture. Et ils sont venus en voiture, 5 ou 6 gars à la réception, 5 ou 6 gars à l'intérieur. Et entre le moment où nous avons découvert et le moment où la police est arrivée, nous avons eu le temps de faire l'inventaire. Il manquait les 3 plus beaux bronzes de la maison et 2 pendules.
Et 2 pendules,
oui. Voilà.
Alors, Robert Werner, vous êtes journaliste, spécialisé dans les questions du patrimoine. On est ici au Café Ronsard, qui est un peu votre un de vos QG dans votre quartier. Et comment est-ce que vous avez pour la première fois entendu parler du vol de la statue équestre de Louis XIV à Vaux-le-Vicomte ?
Je dirais que je la suivais presque instinctivement, cette très belle statue. D'abord parce que j'aime beaucoup Vaux-le-Vicomte. Comment ne pas aimer Vaux-le-Vicomte ? Parce qu'il y a le Vaux, il y a le Nôtre, il y a le Brun, il y a tout à Vaux-le-Vicomte. Mais surtout, je l'aimais beaucoup. Et quand j'ai commencé à faire mon enquête sur le pillage général, global, hélas, de tant de châteaux, de centaines, pour ne pas dire de milliers de châteaux, notamment dans cette funeste année 98, et même, je crois, après, puisque ça continue, eh bien, je suivais cela et j'étais en rapport constant avec la police, le ministère de l'Intérieur. Si bien que les dépêches tombant de semaine en semaine, un jour, je vois malheureusement sur l'écran cette nouvelle épouvantable de la disparition de cette statue. Mais vous savez, une œuvre comme celle de Girardon, qui est une œuvre, quand vous entrez dans cette pièce, imaginez cette pièce sans cette statue équestre. La pièce, je ne dirais pas qu'elle est nue, parce qu'il y a des gens y ont habité, et on le sent. Mais une telle statue équestre, eh bien, n'étant plus sur son socle, bah, écoutez, c'est un sentiment d'effroi que vous éprouvez. Vous dites, mais vous, même sans savoir qu'elle était là, vous dites quelque chose manque. Tellement elle faisait partie de ce beau château. Il y a pas mal de statues, vous savez, représentant Louis XIV à cheval, parce que d'abord, il aimait bien se faire représenter à cheval. Il y a cette très belle statue qui se trouve Place des Victoires, que vous connaissez, qui était une ancienne place d'armes, comme toutes les places de Paris, hein, Concorde, Vosges, etc. Et il y en a pas mal, mais une des plus jolies, une des plus belles, des plus élégantes, des plus fines, c'est véritablement la statue de Girardon. Ça, c'est une évidence. Girardon, qui était un très, très, très grand sculpteur. Moi, cette statue m'a toujours fasciné. Elle est magnifique. Pourquoi ? Et parce que vous savez très bien qu'à l'époque de Louis XIV, et puis même les rois qui ont suivi, il fallait montrer les rois plus beaux que ce qu'ils étaient. Louis XIV n'était pas précisément un bel homme. Or, il est magnifique sur cette statue, sur ce cheval. D'abord, il est noble, réellement et sincèrement noble sur cette statue. Puis il regarde bien, il y a un regard d'airain, puis il regarde bien l'avenir, l'horizon, l'Europe, pourrait-on dire. Bon. Et il a vraiment beaucoup de gueule, cette statue a beaucoup de classe. Donc, elle m'a toujours plu, mais je la connaissais depuis 30 ans, cette statue. Hein. Elle a toujours été là, puisque je connaissais Vaux-le-Vicomte avant de connaître Patrice de Gouguet.
Bernard Dartiz, vous êtes commandant de police à l'Office central de lutte contre le trafic culturel. Et comment est-ce que vous avez, pour la première fois, entendu parler de ce qui allait devenir le gang des châteaux?
Alors, la première fois, si vous voulez, ici, le service de documentation reçoit toutes les plaintes émanant des services de police et de gendarmerie. Et sur Vaux-le-Vicomte, bien évidemment, moi, en tant que chef de groupe opérationnel, on me dit, tiens, il y a eu un casse à Vaux-le-Vicomte. J'ai dit, mais est-ce que c'est important? On me dit, oui, ils ont dérobé une statue de Girardon, représentant Louis XIV à cheval. Donc c'est de la sorte que j'ai demandé à voir les photos pour être un peu confronté au désastre de ce qui avait été volé.
Alors, quand vous avez connaissance comme ça d'un casse et d'un vol d'une statue comme celle de la statue équestre de Louis XIV, sculptée par Girardon, comment est-ce que vous agissez?
En fait, on procède de la sorte. C'est qu'on a déjà réuni, on a déjà fait une synthèse sur les vols commis. Alors, les vols commis en 98, c'était le château de Maisons-Laffitte, le palais national de Compiègne, où il y a eu un vol très important avec des pendules et des bronzes dorés très importants. L'abbaye de Chaly, où on vole aussi des bronzes et des pendules. Vaux-le-Vicomte, où on vole des bronzes et des pendules. Guermantes, Ballancourt, une tentative à Courance et une tentative à Fontainebleau. Donc, très rapidement, parmi cette synthèse, on essaie de dégager les objets les plus significatifs. Parmi ces objets, il y avait des objets de très grande taille et de très grande valeur, mais pour moi, il s'agissait de dégager un ou deux objets qui me permettraient d'aller voir, dans les pays suspectés de zones de transit, d'aller voir des trafiquants et de leur dire « Est-ce que tu as vu passer tel objet ?» Donc, il fallait isoler deux objets. La statue équestre de Louis XIV par Girardon est un objet tout à fait important de taille et significatif quant au motif. Dans ce milieu des trafiquants, qui sont essentiellement des commerçants, très, très, très rivaux, c'est facile de dénoncer quelqu'un en disant « Tiens, le concurrent, il a tel objet. » C'est une façon d'orienter la police et puis d'être à l'abri un petit peu de son côté pour continuer son trafic. Dans le cas présent, on m'a dit très rapidement « Bah, tu sais, il y a un nommé Martens, celui qui est sorti de prison, il faut voir comment il fonctionne. Il a des arrivages très importants d'objets. » Alors là, on est donc en 98. Cette information, on la reçoit au mois d'août, août-septembre. Et puis, par recoupement, on nous dit oui, Martens, il a eu la statue de Vaux-le-Vicomte et il a eu aussi les objets de Compiègne. Et à partir de ce moment-là, dans le cadre de commission rogatoire, on s'est rendu chez Martens, Cornelius, en décembre 99, pour faire une perquisition.
Quelle est la personnalité, Vincent Noz, de Cornelius Martens, le receleur qui a un nom en lui-même assez romanesque?
Oui, alors il est néerlandais. C'est un homme assez massif, rougeau, un peu quelconque, comme ça, dans lequel on peut déceler une brutalité réelle, profonde. Il est père de famille. Il a deux filles. C'est un récidiviste, on pourrait dire forcené, puisque il avait déjà été condamné pour des faits similaires en France à 5 ans de prison. Il avait passé 5 ans en prison, il a purgé sa peine, et quasiment la semaine de sa sortie, on a pu retrouver des appels téléphoniques, puisqu'il y a eu une grande campagne d'écoute téléphonique dans cette enquête qui a été très, très ambitieuse. La semaine de sa sortie, il a commandé les premiers vols. Quasiment la semaine. Donc c'est quand même un gros homme d'affaires. Il est très dans les discussions qu'il a. Il peut être brutal, hein, notamment avec les gitans. Où il dit il s'exprime en mauvais français comme ça. Il dit toi pas bon voleur, toi pas faire ceci. Il est pas content. C'est pas de la bonne marchandise. Ça va pas. On sent quand même une espèce de gangster. Oui, on peut dire ça. Pas du tout. Un personnage sympathique.
Alors, quel rapport est-ce que Cornelius Martens avait avec ces objets?
Il connaissait quand même les œuvres, il connaissait les objets, il savait les choisir, les distinguer. C'est une sorte d'antiquaire. C'est, à sa façon, c'est un antiquaire du marché gris, hein, ou du marché noir, plutôt, on pourrait dire. Pas véritablement ni un esthète, ni un collectionneur. Je pense pas, d'après ce que j'ai entendu dire, que chez lui, il y avait des belles choses ou des choses qui étaient gardées comme cela parce qu'il les aimait. Non, c'était un homme qui faisait ça pour de l'argent.
Lors de cette perquisition dans son garage, à Réti, on a constaté la présence de 2000 objets, à peu près 2000 objets, de bronze, pendules, de toute nature, avec des valeurs très variables, avec des pendules qui valent entre 3000 francs jusqu'à 200-300 000 francs. Alors, Martens Cornelius est un garçon qui est habitué aux visites de la police, puisque depuis 15 ans qu'il se livre à ce genre d'activité, il a été énormément visité. C'est un garçon qui sait aussi que si la police vient chez lui, elle ne va pas trouver les objets les plus « chauds », entre guillemets, puisque moi j'ai toujours pensé, et je le pense toujours, c'est qu'il a des lieux de stockage pour les objets les plus sensibles. Donc chez lui, il ne met que des objets, je dirais, plus faciles à écouler et plus difficiles à identifier. Ce qui le rend relativement serein, ce qui lui fait adopter une attitude assez agressive à notre rencontre, en fait, il est victime d'une pression policière.
D'accord. Et alors, à partir de là, que faire? Enfin, dans la mesure où Cornelius Martens, le receleur présumé, a caché les objets qui pouvaient le mettre en cause, comment est-ce que vous agissez?
Ben, la stratégie, c'est de trouver l'endroit où il peut les stocker, où il peut les avoir déposés. Donc, pour cela, eh bien, on a dû d'abord réfléchir sur comment identifier les chauffeurs qu'il employait, puisqu'on savait qu'il employait des chauffeurs qui faisaient la navette sur les territoires nationaux français. Et donc, en suivant le camion ou le chauffeur, par définition, on trouverait le lieu de stockage. Donc, ça, c'était l'hypothèse de départ. Donc, très rapidement, la gendarmerie, qui a fait un très très gros travail sur les voleurs, a pu identifier le passeur et a pu même un jour localiser le chauffeur dans un hôtel sur l'autoroute. Là, ils m'ont avisé immédiatement, hein, dans la nuit, puisqu'on m'a dit, voilà, le camion est là, l'individu est là. Donc, ça se passait au mois de juillet 2000 et très rapidement... Durant la nuit, nous avons quitté, nous, ici, Paris, avec un effectif assez important. On est parti à 7 voitures, plus des moyens techniques d'approche. Et nous avons rejoint le dispositif gendarmerie qui suivait le camion. Nous l'avons rejoint à la frontière belge, c'est-à-dire à la hauteur des Ardennes. Et là, nous avons joint nos dispositifs, qui étaient déjà importants, puisque la gendarmerie avait à peu près aussi une dizaine de voitures. Et nous avons été rejoints par les forces d'intervention belges, qui étaient elles aussi en nombre, et qui ont pris le relais, un petit peu comme dans une course où on passe le relais, pour accompagner ce camion jusqu'à Zdenzolder, qui était le domicile du passeur. Et là, sur les quelques kilomètres qui nous restaient à parcourir, c'est une anecdote assez extraordinaire, c'est que au loin, on voyait l'autoroute défiler, et puis on pouvait voir le petit camion tout au bout, et derrière une trentaine de véhicules qui n'étaient constitués que de véhicules de police. Donc c'est vrai qu'il était tôt le matin, il était pressé d'arriver chez lui, parce qu'il faut savoir que ses passeurs roulent la nuit pour éviter les contrôles de police. Donc nous lui avons fait un brin de conduite jusqu'à son domicile, et c'est les Belges qui sont occupés de la filature à partir de ce moment-là. Donc il est arrivé chez lui, apparemment il est allé se reposer 2 ou 3 heures. À midi, on nous a signalé le départ de la filature. Le dispositif français avait suivi pour une simple raison, c'est qu'on pensait que le camion allait se rendre aux Pays-Bas. Il fallait donc que nous fassions la jonction aussi avec les forces de police hollandaises, en l'occurrence des groupes d'intervention qui nous étaient envoyés d'Amsterdam. Donc on avait suivi le dispositif, et à midi, lorsque le camion a repris sa route, là je pense que compte tenu du temps qui lui restait avant la restitution à la société de location, il allait manifestement au dépôt, ben, la filature a été perdue par nos collègues belges. Et c'est vrai que pour nous ça a été une grosse déception, parce que quand on a des milliers de kilomètres passés dans les voitures, sans dormir, en mangeant un peu n'importe comment, et puis qu'on sent qu'on arrive près du but, et puis que la filature est perdue, c'est une catastrophe opérationnelle, je dirais. Voilà.
Et cette filature, commandant d'Artis, devait vous mener à d'autres objets, enfin aux objets qui avaient été volés, à la fois sans doute à Vaux-le-Vicomte, mais aussi à Compiègne.
C'est le postulat de départ, moi, que j'avais ici émis, devant même lors de réunions de coordination avec la gendarmerie nationale. Là, on était presque, lors de cette filature, on était allé à un quart d'heure, trois quarts d'heure du bonheur, puisque tous les dispositifs européens avaient été déclenchés. C'est pas facile de déclencher des opérations de cette importance, parce que tout se passe la nuit. Imaginez, en pleine nuit, vous avez des connexions téléphoniques avec des magistrats belges, avec des magistrats hollandais, on mobilise des gens, il faut trouver des moyens de ramarrer sur les autoroutes, de trouver des contacts. Moi, je peux vous assurer que ce sont des dispositifs très très lourds qui impliquent énormément de personnel, puisqu'on peut considérer qu'il y avait à peu près plus d'une centaine de policiers sur le terrain, des véhicules, des moyens très lourds. Il est évident que même pour la direction centrale de la police judiciaire, on ne peut pas se permettre d'échouer sans arrêt. Je veux dire, il est évident que ce genre de dispositif doit aboutir, et doit aboutir positivement. tout l'aspect opérationnel fonctionnait bien. Bon, c'est vrai qu'une filature, ça se perd facilement. Là, ça n'a pas été de chance pour nous. Cette première opération a été un fiasco total.
Alors, Vincent Noss, est-ce qu'on peut revenir un peu justement sur ce modus operandi, enfin sur la manière dont le gang des châteaux opérait entre les personnalités qui dévalisaient, qui cambriolaient les grandes demeures et puis l'issue finale du trafic?
Bon, prenons un cas extrême, disons. Hein. On visite le château, peut-être à l'occasion des journées du patrimoine, ou bien on prend une brochure qui vient d'être éditée, qui recense le patrimoine des églises de la région. Ça, c'est assez classique. Et on va proposer à des antiquaires aux États-Unis ou en Allemagne ces œuvres. Et eux, ils disent, évidemment, ils sont au courant de la combine, on pourrait dire, ils sont complices. Ils disent, moi, ça, ce meuble, ça m'intéresse. À ce moment-là, le modus operandi est quasiment le même. On commande à une bande locale le cambriolage lui-même. Souvent, ce sont des gitans. On leur dit, j'ai besoin dans ce château, j'ai besoin de tel meuble, tel meuble, tel meuble. Ils rentrent par effraction, sans se soucier des alarmes, du bruit qu'ils font. Ils défoncent les grilles, ils défoncent les portes, ils rentrent la nuit. Et même si le château est habité, et ils prennent exactement ce qui leur a été commandé. Ils agissent donc en quelques minutes. Et le temps que les gens se réveillent, que éventuellement les gendarmes se mettent en route, ils sont déjà partis. Et ils sont donc extrêmement audacieux et brutaux d'une certaine manière. Les meubles passent immédiatement, ou assez rapidement en tout cas, la frontière belge. Et à ce moment-là, ils sont protégés par la législation belge, qui est beaucoup plus laxiste en matière de répression du vol et du trafic que la législation française.
Dans l'idéal, c'est d'écouler ces butins avec l'entremise de marchands étrangers. De la sorte, les butins vont être exportés, vont échapper aux recherches policières et aux recherches des victimes. Et ces marchands étrangers qui se trouvent dans le nord de l'Europe, qui ne font l'objet d'aucun contrôle ou règlement particulier au niveau du commerce des biens culturels, vont écouler en morceaux, je dirais, vont éparpiller ces butins auprès de premiers marchands qui sont bien évidemment au courant de l'origine de ces objets. Alors, des personnages comme Martens Cornelius, moi depuis 10 ans que je travaille sur ces phénomènes, j'en ai dénombré à peu près 10 en Belgique et 10 aux Pays-Bas. Donc, ces 10 individus sont des grossistes, j'appelle ça des grossistes. Donc ces grossistes qui sont installés à l'étranger, pourquoi en Belgique, pourquoi aux Pays-Bas? Parce qu'un antiquaire en Belgique ou aux Pays-Bas ne fait l'objet d'aucun contrôle. En France, on va demander à un professionnel d'avoir un livre de police sur lequel il va marquer l'origine de l'objet, le prix de l'objet. Il va devoir s'assurer de l'identité du déposant. Il est soumis aussi à un contrôle fiscal très précis. Donc il y a un contrôle assez... Et on va aussi demander aux professionnels français de ne pas acheter un objet d'art de grande valeur à un prix trop bas. On va le soupçonner de vil prix. Tous ces éléments, le livre de police, le vil-prix, sont des éléments constitutifs de la mauvaise foi du professionnel et vont permettre au magistrat de le convaincre de recel. Dans les pays du Nord, il n'existe aucun de ces éléments et les policiers ne pourront pas établir l'infraction de recel. Donc c'est particulièrement facile de découler des objets dans ces conditions-là.
Bon, les trois grandes plaques tournantes du trafic en Europe, ce sont des pays qui ont une législation comme ça relativement laxiste, qui sont la Suisse, et notamment pour les vols en Italie, la Belgique et les Pays-Bas, notamment pour les vols en France. Alors, le cas de Vaux-le-Vicomte est exactement celui-ci. Ils sont rentrés dans Vaux-le-Vicomte, ils ont pris des statues, notamment la statue, célèbre statue du Louis XIV à cheval de Girardon, et qui pèse quand même son poids, puisqu'elle est en bronze. Et ils sont partis, et le temps que les propriétaires qui étaient à côté se réveillent, se lèvent, s'alertent, ils étaient partis. Alors, on a pu voir comment ce genre de trafic s'opérait. Et on voit aussi comment les bénéfices se font, hein, et comment les prix se font. Il y avait un autre cas qui n'est pas du même réseau, qui avait été découvert par l'OCBC, et je pense d'ailleurs par le commandant d'Artis, qui est une pendule qui a été volée, qui appartient au monument historique en France, et qui avait été volée dans un château, qui s'est retrouvée en Belgique, puis aux Pays-Bas, qui a été vendue à un antiquaire allemand qui s'appelle Neuse, qui l'a revendue à un antiquaire zurichois, le double, et lequel l'antiquaire l'a revendu à Madame Berlusconi, le double. Et en fait, à ce moment-là, la pendule avait retrouvé sa vraie valeur, qui était de l'ordre de 400 000 francs à l'époque, à peu près. Et on peut penser que Madame Berlusconi l'a achetée sans savoir, sans penser qu'elle était volée.
Mais si on suit votre logique, est-ce que ça voudrait dire que quelqu'un, à un moment donné, commandait la statue de Louis XIV à cheval de Gérard d'Ongles?
Dans ce cas-là, elle était trop rare pour trouver facilement un débouché et un commanditaire.
Alors comment imaginer qu'une statue aussi importante, qui est aussi connue, puisse un jour être volée, Robert Werner, alors qu'elle paraît invendable?
Ah non, la réponse est simple. Comment peut-on voler un corot archi classé, archi noté partout, par tous les antiquaires? Et malheureusement, ce fut le cas il y a 2-3 ans au Louvre. Eh bien, tout simplement parce que quelqu'un veut cet objet-là. Et si quelqu'un veut profondément cet objet-là, eh bien, il peut l'avoir. Même si vous vous barricadez, quelqu'un qui veut quelque chose, un objet, malheureusement, il y arrivera toujours. On a toujours volé, madame. Mais volé à ce point, avec des organisateurs, avec des complices, avec des gens qui savent si bien voler. Ils sont souvent, je dois le dire d'ailleurs, je ne parle pas des commanditaires, je parle de ceux qui volent, des gens du voyage, qui sont des experts en la matière. Il ne faut pas avoir peur de le dire, c'est la vérité, c'est comme ça. C'est comme ça. Alors, c'est en raison des journées du patrimoine où on peut entrer, on regarde, on photographie, et puis après, tenez, vous iriez à Los Angeles, dans le quartier des antiquaires, et vous voudriez un cartel, cette fois, du XVIIe siècle. On vous dirait, nous n'avons pas, mais nous pouvons avoir. Et ils auront. Et ils auront, grâce à des commanditaires en France, en Hollande, en Belgique. Tous ces beaux objets d'art français qui constituent notre patrimoine, la richesse du patrimoine, partent par container entier. Par container entier. Ça part par voie de chemin de fer, ça part par la route et ça part par l'air. Comment voulez-vous que les gendarmes ou les policiers interceptent chaque container? C'est impossible. Et comme il y a de plus en plus d'argent à gagner grâce à cela, et de plus en plus de demandes également, eh bien, il y a une grande partie du patrimoine chaque année qui part. Vous n'avez qu'à voir chez les brocanteurs, quand il y a des brocantes comme ça sur des places publiques à Paris, il y a de moins en moins de choses intéressantes. Et ça, c'est gravissime. Le patrimoine français, j'aime pas cette expression, le patrimoine fout le camp, mais en réalité, le patrimoine s'appauvrit d'année en année. Et il faut que tout le monde en prenne conscience. Et même si, voyez-vous, il faut mettre des portes blindées et que ça peut nuire à la beauté, à l'esthétique, eh bien, il faut le faire.
Le gang des châteaux, prise de son Olivier Berotte, un documentaire de Mathilde Deschamps et Yvon Croisier.